RFI, 10h, à Paris, 8h en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec Jeanne Bartoli.
Et bonjour à tous. Donald Trump déploie l'armée en Californie. 2000 membres de la garde nationale vont être déployés dans l'État dirigé par les démocrates. Après 2 jours d'émeutes, des manifestants s'opposent à la politique d'expulsion de masse voulue par Donald Trump et affrontent les forces de l'ordre. Nous sommes aux États-Unis dans un instant. Une marée humaine hier à Rome pour soutenir Gaza et réclamer la fin de la guerre menée par Israël dans l'enclave palestinienne. Mobilisation initiée par l'opposition à Giorgia Meloni. À suivre également la journée mondiale des océans, aujourd'hui à la veille du début de la conférence des Nations Unies sur l'océan, ce sera demain à Nice. Et puis après le sacre hier de Coco Gauff, l'américaine place cet après-midi à la finale homme à Roland-Garros, Yannick Sinner affronte Carlos Alcaraz. Donald Trump déploie donc l'armée en Californie. 2000 membres de la garde nationale vont être déployés pour lutter contre l'anarchie qu'on a laissé prospérer. Ce sont les mots de la porte-parole de la Maison-Blanche, le gouverneur démocrate de l'État de Californie, Gavin Newsom. Régulièrement en proie aux attaques de Donald Trump, dénonce lui une décision volontairement incendiaire. Alors que de nombreux affrontements étaient en cours il y a quelques heures entre manifestants et forces de l'ordre, apparemment une banlieue hispanophone de Los Angeles, ce déploiement de la garde nationale qui pourrait avoir été rendu possible par la saisie d'une loi contre l'insurrection. Les précisions aux États-Unis avec Edouard Maille.
Une mesure exceptionnelle qui cristallise les tensions liées aux politiques migratoires du président et la volonté ces derniers jours de mener ces opérations d'expulsion dans cette ville n'est pas anodine. Los Angeles était dans le viseur du gouvernement, exemple de la résistance aux politiques migratoires de Donald Trump. Elle fait partie des villes sanctuaires où les ressources de la ville ne sont pas utilisées pour arrêter des migrants sans titre de séjour ou pour collaborer avec les autorités de l'immigration. En envoyant les troupes, Donald Trump reprend la rhétorique conservatrice qui voit la Californie, dirigée par Gavin Newsom, un gouverneur démocrate et progressiste, comme une zone de non-droit. Même si le cadre juridique dans lequel Donald Trump envoie ses troupes n'a pas été précisé, il pourrait s'agir de la loi sur l'insurrection du 19e siècle, une loi qui permet au gouvernement national de mobiliser l'armée sans avoir l'autorisation du gouverneur de l'État, une surenchère pour le président afin d'avoir le dernier mot. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et le gouvernement américain qui met en cause par ailleurs la gauche colombienne après la tentative d'assassinat qui a visé hier le sénateur conservateur Miguel Uribe. Le secrétaire d'État Marco Rubio dénonce la responsabilité d'une violente rhétorique de gauche émanant des plus hauts niveaux du gouvernement colombien. Miguel Uribe, candidat à l'investiture de son parti pour la présidentielle de l'an prochain, a été grièvement blessé par balle et atteint à la tête lors d'un de ses meetings. Il a été opéré avec succès, fait savoir ce matin le maire de Bogota. La grande place San Giovanni de Rome, archi-comble pour Gaza hier. La manifestation nationale pour stopper les massacres dans l'enclave palestinienne a rassemblé plus de 300 000 personnes dans la capitale. Le rassemblement était organisé par l'opposition au gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, accusée de complicité. Reportage Anne Lenir.
Sous un soleil flamboyant, des milliers de drapeaux ont flotté dans les rues menant de la Piazza Vittorio à la Piazza San Giovanni. Parmi les manifestants, Maria Rosaria synthétise les raisons de sa présence.
Ce qui me choque le plus, c'est l'utilisation de la famine sur la population comme une arme de guerre.
À ses côtés, Roberto Fico, cofondateur du mouvement 5 étoiles et ancien président de la Chambre des députés, juge le gouvernement Meloni trop proche des positions de Trump face à Netanyahou.
Netanyahou est de fait un criminel de guerre. Sa réponse à la terrible attaque du 7 octobre est disproportionnée. Nous attendons du gouvernement Meloni qu'il ne soit pas seulement une filiale de Washington.
Sur la scène, dressée Piazza San Giovanni, Elie Schlein, leader du Parti démocrate, principale force d'opposition, s'est exprimée en ces termes.
Le gouvernement italien doit sortir de son silence complice. Nous devons agir comme d'autres pays européens l'ont fait, reconnaître l'État de Palestine.
La manifestation s'est conclue avec Bella Ciao, jouée par le célèbre trompettiste Paolo Fresu. Anne Lenir, Rome, RFI.
L'actualité de ce dimanche, c'est aussi une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement attendus aujourd'hui à Nice, dans le sud de la France, où débute demain la conférence de l'ONU sur les océans, troisième du genre. Rendez-vous qu'Emmanuel Macron entend transformer en sommet de mobilisation. Le président français a annoncé hier à la presse régionale une limitation du chalutage de fond dans certaines aires marines protégées. Emmanuel Macron qui s'est par ailleurs insurgé contre les reculs législatifs de ces dernières semaines concernant la défense de l'environnement. Précision Aurélien de Vernois.
C'est une erreur historique de céder aux facilités du moment et de détricoter les mesures prises ces dernières années en faveur de l'environnement, tempête Emmanuel Macron dans son viseur. Les récents votes supprimant les zones à faible émission dans les grandes villes et la suspension du dispositif de rénovation des logements trop gourmands en énergie. Emmanuel Macron, qui en profite pour tancer son propre camp, « J'attends du gouvernement qu'on maintienne la politique en faveur du climat », morigène-t-il, en déplorant le lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers, critique envoyée notamment au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le chef de l'État se voit comme un capitaine résistant à la tempête climatique et ne goûte guère non plus les critiques venues de la gauche. « Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir », assène-t-il, rappelant que la France a diminué de 18,5% ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2017. Et il espère que le sommet de Nice permettra de renforcer ce bilan avec des mesures sur la pêche illégale ou les fonds marins. Emmanuel Macron, qui promet de se battre jusqu'à la dernière seconde pour tenir la promesse de son second quinquennat, qui devait être écologique ou ne serait pas, la seconde option semblant apparemment un peu trop proche à son goût.
Aurélien Devernois. Au Libéria, l'ancien président de la Chambre des représentants a été placé en détention vendredi. Jonathan Fonati Koffa est inculpé avec plusieurs autres élus pour l'incendie qui a endommagé le Congrès en décembre dernier. L'opposition libérienne dénonce des manœuvres politiques périlleuses pour la stabilité du pays, demande sa libération immédiate. Mais pour Abdullah Katamba, politologue libérien, la justice doit désormais faire son travail.
Il est trop tôt pour dire si ce procès sera équitable ou non. Laissons le processus se dérouler et voyons où il mène. S'il y a la moindre ingérence, les gens s'alarmeront et feront entendre leur voix. Le gouvernement doit montrer qu'il a des preuves et ces preuves doivent être solides. Nous voulons voir quelles preuves ils ont. Mais si les preuves ne sont pas convaincantes, ce ne serait pas une bonne idée car cela pourrait envoyer un mauvais message. Nous verrons quelles seront les prochaines réactions. L'opposition se réunit toujours. Il est trop tôt pour dire s'il y aura ou non de l'agitation, mais il y a une forte présence policière dans tout le pays, notamment à la prison où Koffa et les autres députés sont incarcérés. La présence policière est importante dans de nombreux quartiers de la ville. La tension est palpable, mais rien de violent n'est encore observé. Il n'y a pas de chaos pour le moment.
Abdullah Katamba, politologue libérien, joint par Amélie Tullet. En France, il se faisait appeler Richelieu, Mirabeau ou encore Attila et voulait cibler les musulmans. 16 militants d'ultra-droite sont jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris et ce pour participation à une association de malfaiteurs terroristes. Allez, enfin, après le sacre hier de l'américaine Coco Gauff, place cet après-midi à la finale homme à Roland-Garros. Face à face, les deux actuels meilleurs joueurs du monde, l'italien Yannick Sinner, numéro 1 mondial, pour la première fois en finale à Paris, face à son dauphin Carlos Alcaraz, Eric Mamrut.
Leur rivalité a beau avoir débuté il y a 4 ans, jamais Carlos Alcaraz et Yannick Sinner ne s'étaient encore donné rendez-vous en finale d'un grand chelem. La 12e confrontation entre ces deux nouveaux monstres du circuit au style radicalement opposé s'annonce donc encore plus pimentée que d'habitude. Confirmation avec Joe Wilfried Tsonga.
C'est la finale rêvée, c'était la finale qu'on attendait un peu au début du tournoi quand même. Il y a deux joueurs complètement différents, un qui sait faire un peu plus de choses avec la balle, c'est Alcaraz, et puis un autre qui est un rouleau compresseur qui est capable de prendre la balle très très tôt et de frapper de toutes ses forces, donc deux joueurs exceptionnels. On va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, c'est une belle confrontation.
Entre Carlos Alcaraz, 4 grands chelems déjà remportés, et Yannick Sinner, 3 fois couronné, difficile de détacher un favori. Et ce même si l'Espagnol reste sur 4 victoires consécutives face au numéro 1 mondial italien. L'ancien joueur français, Fabrice Santoro.
Il y a un petit avantage psychologique, c'est sûr, mais les deux sont monstrueux sur terre. Même Sinner a été plus impressionnant encore, parce que c'est lui qui n'a pas perdu le moindre set. Carlos en a perdu 4 depuis le début du tournoi. C'est une finale qui me semble assez indécise. On verra déjà les conditions de jeu. Franchement, on va se régaler. J'ai presque envie que le toit soit fermé parce qu'une finale dans le vent, ça nous proposerait forcément un spectacle inférieur.
Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, deux hommes jusque-là invaincus en finale de Grand Chelem. Cette fois-ci, il ne pourra en rester qu'un. Éric Mamrut, Roland Garros, RF.
Les premiers échanges vers 13h15, temps universel. Vous restez avec nous sur la radio du monde. Tout de suite, Afrique, mémoire d'un continent.